Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour. Les honneurs européens pour Helmut Kohl, la mémoire de l'ancien chancelier allemand, pilier de l'Europe, a été saluée ce matin lors d'une cérémonie inédite au Parlement européen. Hong Kong autonome, mais pas trop, discours de fermeté du président chinois Xi Jinping lors des célébrations de la rétrocession de cette région administrative et investiture d'une chef de gouvernement pro-Pékin, bien entendu. Dans ce journal également, les hommages à Simone Veil qui se multiplient à quelques jours de son hommage aux Invalides, sa possible entrée au Panthéon et sur toutes les lèvres tant cette femme a eu un impact sur le pays. Un nouveau mouvement de gauche va naître aujourd'hui, lancé par Benoît Hamon, avec pour objectif ambitieux de proposer une nouvelle alternative. L'inauguration de la nouvelle ligne TGV Paris-Bordeaux, avec les espoirs de toute une région, de nouvelles perspectives économiques. Et puis, on terminera cette édition avec une exposition d'art et de mots. Et vous verrez que les deux se conjuguent très bien. L'Europe reconnaissante, un hommage officiel est actuellement rendu à Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand mort le 16 juin à l'âge de 87 ans, est honoré en ce moment même lors d'une cérémonie inédite organisée dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, en présence notamment d'Angela Merkel, Emmanuel Macron et de Bill Clinton, Anya Vogel.
Oui, cette cérémonie d'adieu, qui est vraiment une première dans l'histoire de l'Union européenne, est empreinte de beaucoup d'émotions. Elle se déroule dans l'hémicycle même du Parlement, où a été installé sur un catafalque l'imposant cercueil recouvert du drapeau européen devant la photo du père de la réunification allemande et de la réconciliation européenne. Face à lui, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier et plusieurs centaines de personnalités installées sur les sièges habituellement réservés aux eurodéputés. Émotion que l'on peut lire sur le visage des nombreux dirigeants actuels ou passés, à commencer par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, très marqué par la disparition de son ami fidèle qualifié de géant de l'après-guerre. La chancelière allemande Angela Merkel, tout de noir vêtue, qui a démarré sa carrière politique grâce à Helmut Kohl, même s'ils se sont brouillés sur la fin. Mais surtout de tous ses amis dans le monde entier, Bill Clinton, Dmitri Medvedev et Felipe González, qui ont été invités par la veuve de l'ancien chancelier à prononcer des messages d'adieu. Les prises de parole se sont succédées pour rendre hommage au père de la réunification allemande et de la réconciliation du continent européen. La très grande dame Simone Veil appartenait à cette même génération, a souligné le président du Parlement européen, Antonio Tajani, appelant à se souvenir d'elle. Emmanuel Macron vient à l'instant de lui rendre hommage. La première ministre britannique Theresa May est là, également son homologue hongrois Viktor Orban, lui aussi un proche de l'ancien chancelier. La veuve d'Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, aurait voulu qu'il prononce un discours. Finalement, elle a accepté d'y renoncer, c'est bien Angela Merkel qui prononce actuellement l'allocution finale, juste après le président français.
Anya Vogel en direct de Strasbourg, merci. Et les funérailles d'Helmut Kohl auront ensuite lieu en Allemagne, dans la cathédrale de Spire. Des cérémonies, mais d'un autre ordre, pour célébrer la liberté, mais qui ressemble plutôt à une déclaration de domination. Hong Kong fête depuis deux jours le 20e anniversaire de sa rétrocession à la Chine. En 1997, s'appliquait alors le principe du un pays, deux systèmes. Un haut degré d'autonomie politique était conféré à cette région administrative spéciale. En apparence, en tout cas, en témoigne la révolte des parapluies de 2014, durant laquelle des manifestants qui réclamaient le suffrage universel et l'indépendance avaient été réprimés avec force par le pouvoir central. Et puis, dernier exemple en date, avec l'arrivée de Carrie Lam, nouvelle chef du gouvernement pro-Pékin, investie ce matin par le président chinois en personne, Xi Jinping, qui a tenu à rappeler à Hong Kong la place qu'elle devait tenir, la correspondance de Dominique André.
L'homme fort de la République populaire de Chine lance un avertissement à Hong Kong. Le président chinois n'a visiblement pas apprécié la vague de protestations des démocrates tout au long de son séjour dans l'île. Dans son discours télévisé, Xi Jinping a mis en garde contre des défis inadmissibles à l'autorité du régime de Pékin. Tous les efforts pour mettre en péril la souveraineté nationale et défier la loi fondamentale de Hong Kong sont inadmissibles, a dit le numéro 1 chinois. Le pouvoir central s'inquiète que Hong Kong devienne une base arrière de contestation, de subversion, dit-on à Pékin. Xi Jinping a désigné dans son discours ceux qui souhaiteraient utiliser Hong Kong comme base pour s'infiltrer en Chine continentale ou y mener des actes de sabotage. Xi Jinping est reparti pour la capitale chinoise, entouré d'un important dispositif de sécurité. Les Hongkongais, pendant ce temps, manifestent. Des dizaines de milliers de personnes défilent en ce moment dans les rues de Hong Kong pour défendre les libertés locales, garantie en théorie par l'accord sino-britannique de 1997. La démocratie, c'est aussi une ligne rouge, disent les Hongkongais.
En Irak, les forces de sécurité irakiennes ont lancé hier l'assaut contre le dernier réduit du groupe État islamique dans la vieille ville de Mossoul. Des dizaines de civils, en majorité des femmes et des enfants, ont réussi à fuir ces derniers jours. L'enclave de moins d'un kilomètre carré encore contrôlée par l'EI. Certains ont été blessés dans leur fuite par les tirs des djihadistes. L'assaut, supposé être le tout dernier, s'annonce difficile pour les forces de sécurité. Les derniers combattants de l'EI étant, semble-t-il, majoritairement étrangers et déterminés à se battre jusqu'à la mort. Des hommages de la gauche, de la droite, des associations féministes et des anonymes toute la journée hier et encore ce matin après l'annonce du décès de Simone Veil hier matin chez elle à Paris à l'âge de 89 ans. Aujourd'hui, une question commence à faire débat dans le pays. Doit-elle aller au Panthéon, la nécropole parisienne où reposent les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire de France? Nombreuses sont les voix en faveur de cette distinction. Une pétition en ligne recueille même à cette heure plus de 35 000 signatures. En attendant la réponse, la Nation rendra un dernier hommage officiel mercredi à cette figure de la politique française et du militantisme du XXe siècle. Cérémonie dans la cour des Invalides, présidée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui prononcera un discours en son honneur. Delphine Horvilleur, l'une des trois femmes rabbins de France, célébrera les obsèques de Simone Veil, car même si cette dernière se revendiquait athée, l'impact de son parcours sur la communauté juive est immense.
En yiddish, il y a une expression pour parler de quelqu'un qui nous guide et qui est une lumière pour l'humanité autour de lui, c'est le mot de mensch. Alors je ne sais pas comment on peut dire mensch au féminin, mais moi quand je pense au féminin de ce mot, c'est immédiatement le visage de Simone Veil qui me vient à l'esprit. Ce qu'ont été ses combats, ce qu'a été son parcours, la façon dont elle a réussi à faire gagner la vie en bien des circonstances, à rester debout, à nous enseigner une capacité de résilience, voilà, un choix de la vie et de la dignité et du militantisme. Et moi il m'a semblé en bien des occasions dans ma vie qu'elle a constitué comme un visage de maître, de guide pour ma génération et pour bien d'autres générations. Une image de ce que le leadership féminin et le courage humain peuvent être. Elle se déclarait peut-être athée, mais elle se déclarait très attachée à ce qui lui avait été transmis par ses parents, à son ancrage dans une histoire et une identité juive. La particularité du judaïsme, c'est qu'il ne se définit pas simplement comme une croyance ou comme une religion, mais il y a bien des voies d'entrée vers le judaïsme et elle exprimait, à mon sens, quelque chose de très juif, justement, dans son attachement à la vie.
Delphine Horvilleur au micro d'Ilana Mor-Youssef. Au chapitre politique, un mouvement pour refaire la gauche. Voilà le défi ambitieux que s'est lancé le candidat malheureux à la présidentielle et aux législatives, Benoît Hamon. C'est aujourd'hui à Paris que naît le mouvement du 1er juillet, un nom provisoire pour une volonté de faire vivre l'aile gauche du PS tout en s'en tenant à bonne distance. Environ 15 000 personnes se sont inscrites à l'événement. Parmi les personnalités politiques annoncées, pas de grande surprise, les anciens ministres Philippe Martin et Dominique Bertinotti, les écologistes Yannick Jadot et Cécile Dufour. Flou en clair ses soutiens de campagne. Pour le politologue et professeur de sciences politiques à l'université de Versailles, Laurent Bouvet, ce mouvement, bien qu'ambitieux, n'est pas sûr de trouver son public.
Est-ce que Benoît Hamon et les gens qui vont venir avec lui sont les mieux placés? Je pense que ce n'est pas le cas, pour deux raisons. D'abord, sa stratégie sur le fond, on l'a vu pendant cette campagne, est une stratégie qui est plutôt concurrente de celle de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, de ce qui a réussi ailleurs que chez Benoît Hamon, puisque lui a échoué. Donc il est dans un espace qui est déjà occupé, où il y a déjà quelque chose qui existe, qui est efficace, qui est constitué, qui a prouvé qu'il pouvait faire un bon score, etc. Donc là, c'est déjà un problème stratégique qu'il a depuis la campagne. Et puis cet échec a montré effectivement que non seulement cette stratégie n'était pas efficace à gauche, mais surtout que ce ne sont pas des propositions qui rencontrent une adhésion. C'est-à-dire que avec sa stratégie dont je parlais à l'instant et ce projet, il n'est pas le mieux placé aujourd'hui pour penser une nouvelle force qui soit entre Mélenchon et Macron, si je résume vite, qui puisse attirer un certain nombre d'électeurs et même peut-être simplement de militants de gauche. Vous voyez, donc il va avoir un problème. Et il n'est pas sûr du tout qu'il puisse jouer le rôle auquel il aspire dans les mois et les années qui viennent.
Laurent Bouvet, interrogé par David Ravier. Pendant ce temps, le gouvernement, lui, s'est délocalisé à Nancy pour un séminaire de renforcement des troupes ou de team building, comme disent les macronistes. Le but est de rassembler ministres et secrétaires d'État pour préparer les grands chantiers de l'exécutif à quelques jours du discours de déclaration de politique générale d'Édouard Philippe et de celui d'Emmanuel Macron devant le Congrès. Depuis ce matin, Bordeaux n'est plus qu'à 2h04 minute de Paris. La nouvelle ligne TGV Paris-Bordeaux a été inaugurée en grande pompe ce matin. Une liaison très attendue qui met la capitale à un petit vol d'oiseau de la région bordelaise avec environ 33 allers-retours quotidiens entre les deux villes par jour. Le projet a coûté cher, plusieurs milliards d'euros, et il a été possible grâce à un partenariat public-privé. Bonjour Hakim Kasmi. Hakim Kasmi, est-ce que vous nous entendez ?
Bonjour Adrien.
Bonjour. Pour la SNCF, en tout cas, c'est un projet qui sera difficile à rentabiliser.
Oui, je vous entends, Adrien.
Vous m'entendez ?
Oui, 200 millions d'euros par an, c'est ce que devrait verser la SNCF en péage pour le passage de chacun de ces trains. Oui, vous m'entendez, Adrien ?
Oui, donc, je vous entends, allez-y.
Mais découpé, vous m'entendez ? Oui, je reprends. 200 millions d'euros, donc c'est le, oui, 200 millions d'euros, c'est le montant que devrait verser chaque année la SNCF, eh bien, à Vinci. Vinci, qui est le partenaire privé et qui investit 3 milliards d'euros pour la liaison, notamment entre Tours et Bordeaux. Du coup, pour rentabiliser l'investissement et limiter les pertes, eh bien, la SNCF compte sur le volume, ce qui passera par les TGV à deux étages. Rachel Picard, la directrice générale des SNCF Voyages.
Nous allons, comme on le fait sur le reste du TGV, continuer d'avoir des prix très accessibles, voire de baisser certains prix, de manière à aller chercher beaucoup plus de voyageurs. Par exemple, sur Ouigo, dans chaque Ouigo, la moitié des gens n'auraient pas voyagé avec TGV s'ils n'avaient pas eu Ouigo. Donc c'est vraiment ça notre volonté, c'est d'élargir le marché, d'aller chercher plus de gens, de les faire voyager en TGV. Ils n'auraient peut-être pas voyagé ou ils auraient pris leur voiture, c'est ça qu'on veut changer.
C'est déjà plus écologique qu'en voiture.
Une nouvelle clientèle, cela passera aussi eh bien, par beaucoup plus de confort à bord, avec notamment du Wi-Fi, des sièges que l'on pourra même mettre dans le sens de la marche en première classe, mais aussi en captant une nouvelle clientèle, notamment celle qui prend l'avion pour venir à Bordeaux. Ils sont 1 million chaque année, ce qui du coup sera aussi meilleur pour l'environnement. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition énergétique.
C'est déjà plus écologique qu'en voiture, c'est plus écologique qu'en avion. À partir du moment où vraiment le train est vraiment en compétition sur le temps, ça déplace les passagers aériens sur des trajets qui ne méritent pas qu'on prenne l'avion dans le train. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est écologique.
Enfin, le combat est loin d'être terminé, car aujourd'hui, les élus réclament l'extension des lignes LGV vers Toulouse et Hendaye au Pays Basque. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, ne se dit pas contre, mais pour l'instant, elle a juste indiqué eh bien, qu'il ne faudrait plus avoir recours aux partenariats publics-privés, car beaucoup trop onéreux.
Merci Hakim Kasmi en direct de Bordeaux avec Benjamin Chauvin aux moyens techniques et toutes nos excuses pour la liaison difficile. Ça a dû faire un grand boom, la collision de cette nuit vers 3h du matin entre un tanker transportant des hydrocarbures et un cargo dans le détroit du Pas-de-Calais. Les secours britanniques coordonnent les opérations de sauvetage à l'heure actuelle avec des vedettes et des hélicoptères. L'accident n'a fait aucun blessé et à cette heure, aucune fuite des 40 000 tonnes d'hydrocarbures présentes dans le tanker n'est à déplorer d'après les autorités maritimes. Des mots en exposition, dit comme ça on a du mal à l'imaginer, mais depuis 10 ans, une linguiste a choisi l'art plastique pour transmettre le fruit de ses recherches. Chaque année, elle compulse 1000 mots répartis dans 10 grands thèmes et met en image 100 mots dans 10 tableaux. Jusqu'au 10 juillet prochain, elle expose le fruit de ses 10 années de recherche à l'Orangerie du Sénat à Paris. L'occasion de voir combien les mots qui font l'actualité racontent l'époque que nous vivons. Cécile de Kervas-Doué.
Vous êtes sur le tableau Société qui s'appelle Chaos, qui est en 2014. On voit déjà qu'on veut s'occuper des bêtes, on voit la malbouffe, on voit des parents 2.0. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire ?
Jeanne Bordeaux est linguiste depuis plus de 20 ans pour une dizaine d'entreprises privées. Il y a 10 ans, elle a commencé à recenser les mots de l'actualité et à les coller par thème, avec des couleurs et des formes, sur d'immenses tableaux, avec cette idée, les mots de notre actualité disent notre société.
Sur 10 ans, le mot colère est très présent. La fronde, les bonnets rouges, les insoumis sont quand même des mots qui expriment qu'il y a des pans de population en colère. Donc serais-je actuellement un gouvernant, je saurais qu'une part profonde quand même de la France a un sentiment qu'un grand mensonge était né et il y avait l'insincérité et des colères.
Ce qu'elle a remarqué surtout, c'est que les mots de notre langue étaient de plus en plus nombreux. Il y a aujourd'hui 80 000 mots dans le dictionnaire, alors que Racine, lui, n'en avait que 1500.
Il y a tant de nouveaux mots. Regardez les éco-gestes. On est un e-touriste, on est un geek. Vous voyez, qu'est-ce que Victor Hugo comprendrait à tout cela ? Et en même temps, 1 800 000 personnes sont sur Facebook. Il y a un brassage de la langue, il y a une utilisation de la langue qu'on n'aurait jamais imaginée. Vous voyez, vous, il y a 10 ans, dans la rue, en train d'écrire debout, constamment de raconter vos émotions. On n'a jamais autant écrit. Pour des linguistes comme nous sommes, c'est magique, c'est merveilleux.
Mais regardez, ces tableaux donnent un peu le tournis. Et c'est d'ailleurs aussi l'objectif de l'artiste.
On est aussi dans un cancer de la langue où les cellules qui sont les mots se multiplient. Et là, je donnerai raison à M. Orsena et d'autres grands maîtres. Oui, il faut absolument de la syntaxe. Oui, il faut travailler la composition. Et ce n'est pas l'encombrement du vocabulaire qui fait la qualité de la langue.
Ces 23 tableaux sont aussi à vendre, entre 6 et 10 000 euros pièce.
Le temps pour cet après-midi, de la pluie un peu partout dans le pays, du soleil seulement en Méditerranée et sur la pointe bretonne. Les températures resteront fraîches pour la saison, de 8 à 20 degrés en moyenne et jusqu'à 26 maximum dans le sud. C'est la fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon.